Les séminaires du Collège de France.
Donc Dominique, ça c'est un travail, enfin c'est lui le promoteur de tout ça, mais on a travaillé ensemble sur ces sujets. C'est un sujet qui est très important, comme vous allez le voir, et qui est aussi controversé, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce paramètre et sur la façon dont on peut l'établir de façon rigoureuse. Et voilà, donc Dominique, je te passe la parole.
Eh bien, bonjour. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler de nos travaux. Je remercie Marc de cette invitation et effectivement, c'est toujours un plaisir de travailler avec Marc. Donc, je vais vous parler effectivement de taux de retour énergétique, EROI en anglais, pour Energy Return on Energy Invested, qui est un critère qui, à notre avis, n'est pas assez utilisé pour faire de la prospective sur le bouquet électrique, pour commencer. Donc c'est ce travail que je vais vous parler. Alors, c'est un travail qu'on a mené à quatre, qui provient en fait d'une convergence, d'une part entre les travaux que nous avions initiés, Marc et moi. Donc en 2021, vous voyez cet article qui était très demandé par Octopus Énergie. Et puis donc deux collègues, Gérard Bonhomme et Jacques Trainer, qui sont là, qui est là, moi Jacques, qui ont aussi, depuis un certain nombre d'années, et notamment dans un article publié dans Reflet de la Physique, qui est une revue que vous pouvez trouver en ligne, disponible. Ont mis en avant l'importance donc de ce taux de retour énergétique dans l'évaluation des systèmes énergétiques. Et je m'en souviens, c'est Jacques qui est venu une fois me voir en me disant « Tiens, ça vaut peut-être le coup qu'on fasse quelque chose à partir des études de scénario que vous aviez fait. » Et donc ça a donné cet article qui est sorti donc en début d'année, où on était les quatre co-auteurs. Alors, puisque ça a été mentionné, article, les trois précédents avaient trois relecteurs, là on en a eu quatre même. Vous voyez, donc c'est suffisamment relu. Et on a fait un corrigeable d'âme, je l'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà, donc l'article c'est sur l'utilisation de cette notion de taux de retour énergétique, EROI, que j'emploierai plutôt par la suite, pour étudier le bouquet électrique français tel qu'il se projetait jusqu'à il y a 15 jours, quoi, puisque là, vous verrez des valeurs de scénario encore assez optimistes au point de vue des productions. Alors, je vais donc dérouler la présentation en faisant déjà un peu une revue de la littérature et des travaux qui ont été faits justement pour déterminer l'EROI des différentes filières de production d'électricité. J'appliquerai ça ensuite dans un premier temps sur les scénarios tels qu'ils ont été présentés jusqu'à ce jour où tout du moins on ne se préoccupe pas des questions que Marc a montrées de l'adéquation de la production à la consommation. Donc dans un premier temps, on va faire comme si on le réglait sur l'année, ce que beaucoup font dans les scénarios prospectifs, ça se réglera tout seul au cours de l'année, heure par heure. On verra, vous le savez déjà, puisque vous avez eu des exposés là-dessus, que ce n'est pas le cas, puisqu'il faut quand même que consommation et production s'ajustent à des temps fins, jusqu'à la seconde, on se contentera de l'heure, et on verra ce que ça induit ici dans les, sur le bouquet électrique. C'est le gros du travail qu'on a fait. Après, je poursuivrai pour élargir à ce qui resterait à faire pour étendre au bouquet au bilan énergétique complet du pays et puis faire le lien avec la question de ce qu'on appelle le taux de retour énergétique sociétal. Alors, en principe, c'est une définition très simple. Le taux de retour énergétique, alors je veux dire pour une filière énergétique, on connaît en gros la durée de vie pendant laquelle elle va produire, on peut estimer avec le facteur de charge et la puissance, en gros, quelle est la consommation quelle est la production qu'elle va faire sur sa durée de vie. Et c'est ce qu'on appelle E-out, voilà. Et cette quantité donc, qui est produite sur toute sa durée de vie, on va la diviser par toute la quantité d'énergie qu'il a fallu injecter dans la filière pour la construire à partir des matériaux qu'il faut aller chercher dans la terre, la faire fonctionner et puis ensuite la démanteler. Donc c'est ce qu'on appelle du berceau jusqu'à la tombe, toute l'énergie dépensée sur la filière électrique. Donc le principe, la définition est très simple. Après, disons que le détail du calcul peut être un peu plus compliqué. Donc il faut déjà bien effectivement se border le système, hein, de quoi on s'intéresse, une filière électrique, un bouquet électrique. Alors on va regarder les deux, on va partir des filières électriques, puis on va venir au bouquet électrique. Il faut pouvoir faire un diagramme de flux du système, hein, tous ces flux d'énergie, il faut pouvoir les comptabiliser, et ce qui est le plus laborieux, c'est les calculer. Alors nous, on ne l'a pas fait, on s'est relié à des publications de la littérature, voilà, comme vous verrez, et à partir de là, on peut calculer le taux, l'IROI. Alors, quelques exemples des diagrammes de flux, en commençant par, ici à gauche, un diagramme qui se trouve dans un livre de Charles Hall. Alors, Charles Hall, c'est en fait le fondateur, c'est d'une école d'écologues, on dit, qui ont utilisé un peu des diagrammes électriques. Voilà. Et donc ça a commencé dans des systèmes plutôt de l'école, du domaine de l'environnement, et ils sont intéressés en fait à la production d'énergie. Et là, vous avez un exemple pour le puits de pétrole. Pour le pétrole, depuis le puits, l'extraction, le raffinage, le transport, et puis là, ça sort. Et c'est ce qui est délivré à l'utilisateur. Je ne compte pas là, tout ce qu'il faut pour faire les routes et tout, parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, mais une filière, voilà ce qu'ils ont prévu. Voilà. Et vous voyez, au départ, vous avez 100 mégajoules qui sont là dans la terre, quelque part. Et puis, aux différentes étapes, et bien, à chaque fois, vous avez des pertes qui se produisent. Et le débit qui arrive à la fin, à la sortie, qui est provisionné, c'est 58, je crois. Voilà, je vois pas très bien. Donc ça, c'est le flux, disons, d'énergie qui sort du système. À droite, vous avez une autre publication faite par des collègues allemands, Weisbach et ses collègues, où on voit l'autre aspect des choses, qui insiste plutôt sur l'autre aspect des choses. Vous avez la centrale. C'est pour une centrale électro. Voilà. C'est une centrale, disons, qui, à mon avis, plutôt de lignite. Ils ont traité les différentes filières, mais ça, c'est plutôt illustré sur la lignite, avec tous les outils pour creuser les champs de lignite, la centrale proprement dit. Voilà. Et puis, entre les deux, tout ce qu'il faut pour construire la centrale, les équipements et tout le machin. Et les flèches rouges en haut, c'est toute l'énergie que la société doit mettre dans cette filière pour qu'à la sortie, elle produise l'électricité qui lui revient. Donc vous auriez compris, d'ailleurs je ne l'ai pas dit au départ, mais j'aurais dû le dire, que l'IROI, il doit être supérieur à 1 pour mériter le nom de fourniture d'énergie, sinon c'est de la dépense. Le dernier, je ne rentrerai pas dans le détail, rassurez-vous, surtout vous ne voyez pas le détail. Mais en gros, ça montre toutes les étapes. Alors, c'est une troisième publication. Alors, j'ai mis avec des petites lettres à la fin, il y a toutes les références. Voilà. Donc, ici, ça va du berceau, c'est-à-dire aller chercher les matériaux sous terre. Toutes les étapes qui vont là, ici, c'est plutôt le fonctionnement, jusqu'à la tombe, c'est-à-dire le démantèlement. Alors, ici, c'est un peu la synthèse de ça avec donc, je le prends surtout pour les diagrammes qui sont intéressants parce que ça permet de visualiser mieux les différentes sources. Et ce type de symbole, c'est connu dans la littérature, c'est les symboles d'Odum. Odum, c'était je dirais, le professeur qui a formé Charles Hall, donc dans ce système, ben, voilà, dans cette, comme, voilà, dans ce, cette discipline d'écologue utilisant des schémas de symbolique électrique ou logique. Donc vous voyez, là, il représente les sources d'énergie par des ronds. Les flux d'énergie, ben, c'est les flèches. Les pertes, c'est ça, c'est ce qui va vers la Terre, voilà. Ici, vous avez un réservoir, c'est, en gros, c'est ce qu'il y a dans le sol, hein, qui contient une quantité, voilà, et qui va alimenter, donc tout ça, ça commence à être le système d'énergie proprement dit, je le détaillerai plus après, hein, je ne rentre pas dans le détail. Enfin, notez juste ça, ce genre de triangle, enfin, je ne sais pas comment le nommer, rectangle un peu dirigé, c'est travail-production. Et tout ceci arrive à la fin, à la société qui est représentée dans ses différents secteurs de consommation par des hexagones. On va utiliser ça pour regarder donc l'IROI des filières du bouquet électrique français. Et dans un premier temps, voilà, j'ai fait un peu ce diagramme à partir donc de, bah, des symboles d'Odoom. Alors ici à gauche, vous avez ce qui fournit l'énergie. Donc ultimement, vous avez d'un côté le Big Bang qui a fait les matériaux du magma hein, terrestre, dans lequel il y a l'uranium 235. Et puis sinon, bah, vous avez le soleil qui nous alimente en continu, mais qui aussi, dans les âges géologiques, ont alimenté des énergies fossiles qu'on trouve aussi dans le réservoir, voilà, dans la Terre, voilà, en forme de réservoir, c'est notre réserve. Ces différents flux donc, vont rentrer, alors voilà, là, ce rectangle à bord arrondi, bah, c'est la centrale, hein. Voilà, centrale classique. Alors vous voyez, dans lequel il y a aussi l'hydro, parce que l'hydro arrive avec des stocks qui sont bah, les barrages hein, en amont, qui régulent, donc ces stocks vont réguler les flux qui vont rentrer dans la centrale. Donc la centrale, c'est ça. Centrale avec les services auxiliaires. Donc il y a des échanges d'énergie entre les deux. Et à chaque fois, bah, vous avez des pertes. Voilà. Mais ce qui compte, c'est ce qui va sortir vers le réseau et qui est cette énergie sortante E out, le numérateur de l'IROI. Donc, notons aussi que soit dans la biomasse terrestre, pas trop, mais surtout dans la biomasse fossile, hein, avec le pétrole et tout, on a deux endroits où, au lieu de faire de l'électricité, on va l'utiliser directement dans la consommation finale. C'est toutes les énergies, donc, sous forme de combustible ou de chaleur. Donc, cette société qui est alimentée par ces deux flux d'énergie, donc les combustibles et puis l'électricité, eh bien, renvoie, comme on l'a vu, hein, pour tout ce qui est nécessaire à la construction de la centrale, donc depuis les matériaux qu'il faut extraire de terre, la construction, quand on a un combustible, et l'extraction et la fourniture du combustible, l'opération et puis le décommissioning, le démantèlement. Donc tout ça, c'est de l'énergie qui va rentrer, un peu celle du combustible, celle qui est investie dans les infrastructures. Et donc, toute cette énergie qui part, c'est EIN, c'est le dénominateur de l'IROI. Alors, comme je vous ai dit, ces travaux sont quand même assez laborieux, donc on a pris deux sources pour avoir des valeurs pour les filières électriques. Donc les deux sources, elles ont été déjà vues un peu auparavant. C'est Weisbach et Hall et Kiss et Hall. Donc, j'ai résumé ici, dans ce bar graphe, leurs valeurs pour les différentes filières. Donc vous voyez des valeurs qui montent bon, jusqu'à 50 hein, pour le nucléaire, l'hydraulique. Alors pour une source, pour l'autre, c'est beaucoup plus bas. Puis pareil, on voit que c'est, ça dépend un petit peu des sources. L'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, le gaz, le charbon. Ce qu'on voit sur ce graphique, concordance quand même des références, c'est que on a quand même des valeurs quand même plus faibles pour justement un peu toutes les nouvelles sources d'énergie. Alors on va appliquer ça maintenant au bouquet électrique. Alors pour commencer 2019, bon, on aurait pu prendre plus récent, mais ça ne change pas trop, comme on a vu, hein, c'est assez constant. Et puis c'est ce bouquet qui nous avait servi comme référence à notre publication de 2021. Voilà. Donc vous voyez, ici le camembert qui décrit le mix annuel en terawattheure. Donc, pour une production totale autour de 540, quoi, avec la part nucléaire, l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, le gaz, et puis, j'ai le photovoltaïque, oui, je me suis trompé, c'est la biomasse, et puis ça doit être les déchets, je crois, voilà. Et donc, connaissant ce bouquet, connaissant les hydroïdes des filières, on peut en déduire, compte tenu de la production donnée de l'année, eh bien, l'énergie qu'il faut affecter en termes d'énergie dépensée pour la filière, parce que le détail est donné dans l'article, en gros, on fait une équerre répartition sur la durée de vie de la centrale de tout ce qui a servi au point de vue de toute l'énergie qui va être dépensée au cours de sa durée de vie. Donc on la répartit également, il n'y a pas de raison de privilégier une année plutôt que l'autre, on répartit ça également au combustible près. C'est pour ça que voilà, qui peut changer d'une année sur l'autre. Donc, connaissant les IROI, on peut déduire les énergies investies dans chacune des filières pour accomplir ce bouquet électrique, cette production. Donc on voit le détail des différentes sources, nucléaire, hydraulique, éolien, photovoltaïque, voilà. Et on arrive à un total pour ce bouquet qui se situe entre 18 et 26 TWh, suivant les sources, c'est un peu la plage des deux sources qu'on avait. Et pour une production de 536 TWh, on en déduit simplement, vous pourrez faire le calcul, il est très simple, un IROI qui se situe entre 21 et 30. Donc ça, c'est la situation 2019. Alors, on a regardé ensuite le scénario qu'on avait pris dans un article de 2021, avec, comme on le voit encore, une production ambitieuse de 750 TWh qu'il faudra peut-être réviser par la suite. Voilà. Et la répartition qu'il y a au point de vue du bouquet entre le nucléaire moitié et puis le reste, c'est surtout les énergies renouvelables, l'hydro, l'éolien, le PV, la biomasse. À droite, vous voyez donc, de la même manière qu'on a fait pour 2019, le calcul des dépenses énergétiques de chacune des filières. Donc, calcul, à nouveau, je vous le dis, qu'on prend la production faite par chacune des filières, on le divise par l'IROI et on a ce qu'il faut imputer au point de vue dépenses énergétiques pour la filière. Et on obtient donc un total qui va de 46 à 52 TWh. Et par voie de conséquence, ça nous donne un IROI qui est entre 14,4 et 16,3. Deuxième scénario à 2050 qu'on regarde. Alors, c'est un scénario 100%. Il se trouve qu'il y a toujours des gens qui font la promotion de scénarios à 100%, donc on a regardé un. Donc, vous voyez, là, vous n'avez plus que de l'hydro, de l'éolien et du PV. Pour 532 TWh. Et à nouveau, donc, même chose que précédemment, on fait pour chacune des filières, là maintenant on n'a plus que l'hydro, l'éolien et le PV, bien évidemment, toutes les autres sont à zéro, elles ne produisent plus rien. Donc les dépenses énergétiques qui leur reviennent, et donc avec un total de dépenses énergétiques qui va entre 50 et 62 TWh. Et compte tenu de la production dans l'année de 532 TWh, ben ça donne un IROI qui est situé entre 8,6 et 10,6. Voilà. Donc, à ce stade, donc, on a regardé toutes les sources d'énergie, y compris les nouvelles éoliennes et photovoltaïques, comme si elles se comportaient comme les sources qu'on avait avant, voilà, hydraulique, nucléaire ou gaz, qui sont pilotables. On ne se préoccupera pas, justement, jusqu'à présent, de cet ajustement fin caractéristique de l'électricité où eh bien, il faut à tout instant assurer la consommation avec la somme des sources de production. Donc on va rajouter maintenant cette contrainte. Alors, on ne va pas rentrer dans... Vous l'avez vu dans la première conférence qui a été donnée par Nourdine, toutes les questions sur le réseau. Là, on ne va pas rentrer aussi finement. On va rester au niveau de l'heure, hein, ou de la demi-heure, disons, qui sont les valeurs dont on dispose quand on va sur le site de RTE, où il stocke, c'est Economix, toutes les valeurs de détail des productions et des consommations. Alors, pour vous montrer, mais je crois qu'on l'a vu déjà précédemment dans un graphique qu'a montré Marc, je reprends là... Alors, l'électricité horaire, hein, on peut dire aussi, c'est la puissance délivrée. On avait choisi, pour distinguer justement, dans ce débat toujours difficile, des puissances installées et puis de ce qui est réellement produit, d'appeler à chaque fois électricité horaire, gigawatt-heure par heure. Donc, gigawatt-heure par heure, bah, c'est des gigawatts. Hein, les grandeurs, les quantités sont les mêmes, mais là, ça identifie bien que c'est une production. Donc, en abscisse, vous avez les semaines alors de l'année 2019, voilà, hein, c'est brut de RTE, ça, avec en vert l'éolien, avec les variations, vous voyez, ça. Et puis par-dessus, superposé à ça, les variations du solaire qui vient compléter. Vous voyez l'échelle, hein, là, il y a 10 gigawattheures. 10 gigawattheures, c'est en gros... l'équivalent d'une centrale nucléaire qu'on relance ou qu'on arrête. Hein. Et vous voyez, chaque jour, on le voit bien, puisqu'il y a le pic du midi solaire, alors plus ou moins intense suivant les jours, mais on peut compter les jours. Et ça revient à quelque chose qui est expliqué par Nourdine, que je ne connaissais pas, c'est les becs de canard, si vous avez entendu sa conférence, qui est cette forme particulière que les autres sources pilotables doivent faire, c'est-à-dire s'effacer quand le solaire contribue à plein, pour lui céder la place. Alors, là, ce qu'on avait vu sur quelques semaines, on va le voir sur tous les mois de l'année. Alors, non plus pour le détail des productions éoliennes et solaires, mais pour la somme des productions sans carbone. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le thermique. Et puis en bleu, c'est la consommation. Les deux qui devraient se superposer normalement, hein, comme j'ai dit, qui se superposent quand on ajoute les échanges avec l'extérieur et le thermique flamme qu'on n'a pas compté dans la production. Dans ce cas-là, on retrouve deux courbes qu'on ne peut plus distinguer. Donc vous voyez une évaluation, une évolution qui fluctue donc, par rapport aux grandeurs qui ont été sans. 90, disait Marc tout à l'heure, vous voyez les pics là, c'est à peu près à ces niveaux-là, en hiver bien évidemment, et puis un creux qui tombe à 60, 50 même, au point de vue de la consommation, même 40, voilà. Donc ça c'est l'année 2019. Alors, comme on a toutes les valeurs de l'année 2019, on va les projeter, comme ça a été montré dans un graphique de Marc, en appliquant les facteurs multiplicatifs que vous avez vus précédemment aux productions horaires. Alors, vous allez voir le 100% pour commencer. Eh bien voilà, ça donne ça, ce que vous voyez à gauche. En gros, comme on est la consommation en moyenne n'a pas beaucoup bougé, donc la courbe de consommation, elle est à peu près la même que précédemment. Et par contre, on n'a plus que les productions maintenant intermittentes qui sont dans le mixte, un peu d'hydro, mais voilà. Et donc vous voyez là des amplitudes de fluctuation très élevées. Et avec des moments où on est en déficit, là, en début de l'année, vous voyez que majoritairement, on n'a pas le niveau de nécessaire à la consommation. Puis à l'inverse, en été, bah, là, il y a beaucoup de surplus. Donc, comme il est à dire, l'idée qui semblerait bien, c'est de transporter les surplus qu'on a en été pour les consommer en hiver. Donc on va se mettre dans une situation vraiment très idéale, irréaliste, pour commencer, qui est de se dire, on a une super batterie là, qui fait 50 TWh, une super batterie qui va sans perte gérer tout ça. C'est-à-dire que quand on a, là, en début d'année, alors il aura fallu la charger l'année précédente, on va partir d'un niveau de charge quand même pas trop... gros 35, c'était fait comme ça. C'est la suite qui compte. Là, vous êtes en déficit, donc déchargez votre batterie. Et puis, vous arrivez à un pic, là, à peu près au fin février. Ça commence à remonter. Puis après, ça va remonter un peu tout au fil des mois d'été, plus favorables. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, batterie ou réservoir d'eau, j'ai fait là plutôt un réservoir d'eau, comme ça pour mettre des petites flèches. Donc ici, quand elle se vide, le niveau baisse et puis il y a un flux sortant. Et puis à l'inverse, le reste de l'année où on a un peu de surplus, on la remplit à nouveau et le niveau remonte. Alors ici, à gauche, vous avez justement les flux, alors vu du réseau, l'espèce de carré bleu, là, c'est le réseau électrique. Donc le réseau électrique, et là, ce qui est représenté là, c'est plus l'historique comme on avait, très chahuté, vous voyez, c'est devenu très lisse parce qu'on a fait la monotone, c'est-à-dire qu'on a trié les valeurs des flux. Depuis, donc, les flux sortants du réseau, quand on a des excédents, voilà, vous voyez à nouveau les niveaux, c'est des gigawattheures. À nouveau, un gigawattheure, c'est la production d'une tranche nucléaire, une centrale. Donc vous voyez, donc les flux, toute la partie donc depuis les plus importants jusqu'à zéro, de tout ce qui est le flux qui va sortir du réseau pour alimenter notre super batterie. Et puis l'inverse, là, la super batterie, quand on n'a pas la production qu'il faut, elle est en train de restituer son électricité au réseau. Et donc là, ça devient positif. Voilà. Alors ça, c'est cette situation... Alors, il y a une première chose, d'ailleurs, avant même de parler des modes de stockage. En général, et c'est le cas de ce scénario 100% qu'on a pris dans la littérature, ils ont une capacité d'entrée dans le stockage, une capacité de stockage qui est limitée. Donc là, elle est à 40 gigawatts. Ça veut dire que tout ce qui est en production horaire, enfin en excédent horaire, en flux horaire au-dessus de ce 40, va pas pouvoir rentrer, va être rejeté. Donc c'est cette partie marron foncé. Comme ça n'est pas rentré, bien sûr, la même quantité se trouve absente quand il va falloir restituer de l'électricité au réseau. Donc ça, c'est ce qui se passe avant même qu'on fonctionne dans le stockage réel. Alors maintenant, on va regarder les différents modes de stockage qui sont proposés. Toujours dans ce scénario tiré de la littérature, vous avez l'hydrogène. Ici, en rose, les STEP, donc station de transfert d'énergie par pompage hydroélectrique, et puis les batteries en vert. Alors, dedans, pendant le système, eh ben c'est ça qui s'opère, ce qui est marqué en haut. C'est-à-dire que c'est jamais l'électricité qui se stocke, comme on a considéré jusqu'à présent. C'est toujours une autre forme d'énergie. Donc, il faut convertir l'électricité à l'aller et au retour sur cette forme d'énergie. Alors, quand on est dans du stockage gravitaire, ben c'est des mouvements d'eau qui montent et qui descendent entre deux lacs, un lac inférieur, un lac supérieur. Quand c'est du stockage électrochimique dans des batteries, ben c'est des mouvements d'ions qui vont d'une électrode à l'autre et inverse. Et quand c'est du stockage chimique, ben c'est la molécule d'eau qui est dissociée par électrolyse et puis ensuite l'hydrogène est recombiné avec l'oxygène de l'air pour donner de l'électricité. Il faut voir les rendements qu'on peut avoir dans ces différentes formes. Donc les rendements des deux premiers sont de 80%, ça veut dire qu'on a 20% de perte. Pour le stockage chimique, c'est beaucoup plus compliqué, il faut en plus stocker l'hydrogène, donc vous avez un rendement qui n'est que de 30%, donc ça veut dire 70% de perte. Donc ce qui veut dire que pendant... vous avez une partie qui est en gris clair qui va partir en chaleur, qui va être perdue, c'est toutes les pertes. Il ne reste du processus que la partie rose. Les steps, vous avez la même chose, mais, et puis pour les batteries, mais avec des pertes moindres. Et donc, quand vous êtes à la sortie, après, quand il faut, ça revient vers le réseau, vous n'avez plus que ça qui revient. Quand vous avez tout assez enlevé les pertes, vous n'avez plus que ça. Ça veut dire qu'il vous manque, ici, 88 TWh. Alors, il y a une chose que j'ai mentionné, que j'aurais pu mentionner plus tôt, entre cette partie-là de flux, au total, en comptant même ce qui a été écrété, c'est 122 TWh qu'il faut ainsi décaler temporellement dans l'année. Donc, 122 TWh à décaler, et puis, par le processus de stockage, vous perdez 88 TWh. Donc, vous n'avez plus que le reste. Dans le cas 50%, je vais pouvoir peut-être aller un petit peu plus vite parce que, en fait, j'espère que vous avez compris, j'ai été assez clair pour voir comment ça marchait. Donc, vous avez ici à nouveau sur l'année, sur les mois de l'année, la consommation, alors, à un niveau plus élevé, 750 TWh maintenant, et puis la production, avec l'alternance entre période déficitaire et période de surplus. Du coup, notre super batterie qui se décharge et qui se remonte. Et puis, on retrouve l'idée de la monotone des flux. Et du coup, là, on n'a pas considéré décrétage. On était... optimiste, et toujours à cause des rendements, entre ce que vous rentrez avant et puis ce que vous récupérez, il vous manque 32 TWh. Donc, ces éléments-là, il va falloir les intégrer pour calculer maintenant le taux de retour énergétique, l'IROI du bouquet. Alors, je reprends le diagramme. Passez peut-être un peu de temps pour vous le décrire. Vous retrouvez donc toutes les sources d'énergie primaire. Cette fois-ci, on a enregistré ces nouvelles sources d'énergie. Donc, ce qu'on avait vu précédemment, tout ce qui était sources pilotables, sont ici, dans ce rectangle. Et on a mis à part, parce qu'elles ont un comportement différent, les sources fatales, intermittentes. Différentes parce que le soleil et le vent interviennent directement en entrée des centrales, imposent donc leur flux au flux électrique qui en sort. On a vu le système de stockage qu'on doit mettre derrière pour retrouver une électricité conforme à la demande. Mais entre l'électricité qui rentre, il y a une partie P qui est perdue, donc sort du stock uniquement E-P. Et comme on a quand même prévu sur l'année un bilan où on n'a pas pris en compte ce P, autrement dit, on a basé pour la production des énergies fatales E, ben il faut rajouter ce qu'il faut, donc la perte, il faut la rajouter pour retrouver le niveau qu'on avait prévu sur l'année E. Et ceci, ben c'est une dépense énergétique supplémentaire. Donc aujourd'hui, vous avez à présent deux. Auparavant, vous aviez juste cette flèche-là qui était l'énergie entrante. Là, vous avez une autre dépense énergétique qui vient s'ajouter pour gérer les sources fatales. Alors, cette distinction, quand j'ai vu l'exposé de Nourdine, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai vu que toutes ces sources-là, il a expliqué qu'elles n'étaient pas connectées sur le réseau principal où se trouvent les grandes centrales classiques centralisées, c'est sur le réseau de distribution. Donc il avait une diapo avec différentes couches du réseau, depuis le réseau vraiment macroscopique jusqu'au réseau de distribution. Et donc ça concorde bien avec ce qu'il disait, cette séparation de, à la fois par le fonctionnement, c'est ce que nous on avait trouvé, mais aussi par, y compris son insertion dans le réseau, entre ce qui est des sources contrôlées, un peu centralisées, et puis les sources fatales, plutôt distribuées et près du réseau de distribution. Et donc, il faut bien compter sur ces sources fatales, et bien cette dépense énergie supplémentaire, une dépense énergétique supplémentaire, et qui en fait, bon, elle va sur les sources fatales, mais elle rentre dans le mix complet, bien évidemment. Voilà, et donc, à partir de là, eh bien, on peut refaire le calcul taux de retour énergétique des deux bouquets, donc le 50% et le 100%. Donc je détaille pour 50% et puis le 100%, c'est pareil. Au bouquet, on ajoute donc les 32 TWh qu'il faut pour compenser les pertes à ce qu'on avait calculé précédemment de dépenses énergétiques dans la fourchette 46-52. Donc ça nous donne un total de 68 à 84 TWh suivant les sources. Et donc pour une production de 750 TWh, un IROI qui se situe entre 9,6 et 8,9. Et puis pour le 100%, eh ben ça donne un IROI qui est compris entre 3,9 et 3,5. Donc comme vous avez vu, vous vous souvenez, c'était au-delà de 20 en 2019. Là, on est en dessous de 10, et là, on est en dessous de 5, pour faire simple. Et, alors, là, c'est un point de détail, mais j'avais mis ça en commun. Ça explique quand même, je vous avais dit que je parlerais du corrigendum. Ça explique un peu le réseau du corrigendum, c'est là. C'est que, dans notre premier article, on avait mis dans la dépense énergétique la perte aussi. Et en lisant donc une lettre qui est parue juste après que notre article ait été publié, ou quasiment simultanément, donc une fois que l'article est publié, de Charles Hall, qui remettait les pendules à l'heure, si j'ose dire, par rapport à l'utilisation de sa méthode, par rapport à certaines dérives qu'il avait constatées dans la littérature, et notamment qui tendaient à attribuer des IROI assez mirifiques aux énergies renouvelables intermittentes par rapport aux sources classiques. Et donc, il explique en deux pages, c'est assez clair, assez court, il explique les différentes raisons, il peut y avoir des erreurs. Et on s'est aperçu que nous, en comptant cette perte du stockage, eh ben, on tombait dans une des erreurs qui signalait. Donc, on a corrigé pour effectivement ne plus compter que, alors là, ce qui reste invariablement, la dépense énergétique supplémentaire qu'il faut apporter pour compenser cette perte. Ça n'a pas changé grand-chose à nos résultats, parce que bon, ça a relevé un peu les IROI, mais pas tant que ça. Avec en plus une chose, alors là, qu'il faut voir, c'est que là-dedans, on a supposé que tout ce qui était électrolyseur, etc., ça ne nous avait coûté aucune dépense. On les avait à disposition sans que ça ait décompté de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas trouvé, dans le temps imparti un peu, peut-être, on n'a peut-être pas été chercher assez loin, mais on n'a pas trouvé, disons, de référence qui soit valable sur les dépenses énergétiques des installations de stockage. Batterie ou électrolyseur, etc. Donc on a dit, premier temps, on ne va pas les compter, mais il faut bien voir qu'il faudrait les compter et que quand on les comptera, ça va encore faire baisser l'IROI. Alors, ça donne donc ça. Alors, autour de l'IROI, on a aussi, donc je rappelle la raison en anglais. Là, j'ai fait mon titre en anglais, donc entre l'IROI, Energy Return on Investment, et il y a le Net Energy aussi qu'on est twin. Bon, le Net Energy, c'est simplement la différence de l'énergie sortante à laquelle on a retranché donc la dépense énergétique. Et donc, ce qui est dans ce graphique-là qu'on trouve assez à gauche, qu'on trouve assez couramment dans la littérature, en fonction de l'IROI, qui est ici en abscisse, vous avez donc la part d'électricité disponible qui suit cette... l'équation, elle est là, c'est 1 moins l'inverse de l'IROI, donc vous avez cette courbe-là qui met la limite entre ce qui est l'électricité disponible en bleu clair et puis en violet un peu foncé, c'est ce qui est perdu, c'est la dépense énergétique du système électrique. Donc on voit qu'on se situe là aujourd'hui, ça c'est pour la plage entre les deux sources qu'on avait. Le résultat 2050, comme ça commence à être beaucoup plus la question du stockage qui domine, ça a fait baisser et puis ça a réduit aussi l'incertitude. Et puis là, 100%, on est ici. Alors, une autre, on peut se dire, où est-ce qu'on va commencer à se casser la figure sur cette pente un peu glissante ? C'est une question un peu ouverte. Une autre façon de voir, c'est peut-être qui éclaire un peu où ça devient dangereux. C'est en regardant. Alors, quand on a fait ce graphique, on rapporte en fait la net énergie à l'énergie sortante. Pourquoi uniquement celle-ci ? Pourquoi pas E1 ? C'est-à-dire qu'on peut se dire, après tout, pourquoi dépenserait-on plus dans le futur en énergie pour notre système énergétique qu'aujourd'hui ? Donc, si on se maintient à si on divise donc cette fois-ci net énergie par E1, on a simplement le résultat. Alors là, il est très très simple, c'est IROI moins 1. Et vous avez ici les résultats. 2019, 50% et 100%. Et la barre orangée, c'est ce qui vient, ce qui reste pour la société de disponible. Là, on voit de cette manière-là, peut-être une évolution dont il faut se méfier. Alors, comme on avait aussi, je vais compléter. On avait aussi les réseaux de les scénarios de RTE qui étaient intervenus, qui ont été parus après notre première publication. Mais souvent, c'est normal, les gens nous demandaient comment se situent vos scénarios par rapport à ceux de RTE. Donc, on a essayé là, on les a situés là. Mais avant, je vais vous montrer ce premier graphique. Ce premier graphique, c'est la production annuelle des énergies éoliennes et solaires cumulées en terawatt-heure. Donc, ici... au maximum, c'était notre crasse de 2021, là, notre compte-rendu de chimie de 2021, pour le 100%. Pour celui de 2021, 50%, il est ici. Tous les points qui sont sur cette courbe ont été recalculés à partir des valeurs de production électrique qu'on obtient. a commencé, on avait commencé ces travaux-là avec Fritz Wagner. Fritz Wagner, c'est un physicien allemand qui a été en fait à l'origine de la méthode qu'on a utilisée. Et en 2016, vous voyez, EPJP, c'était dans European Physical Journal, on a mis en commun les résultats que lui avait obtenus pour l'Allemagne et nous pour la France, ici. Il y a une certaine dispersion parce que, en fonction des productions des pays, hein, on a vu, mais on voit que déjà, une bonne approximation, c'est 25%, c'est un quart de la production des énergies intermittentes qui doit être transférée. Hein. Donc ça, le transfert, c'est un quart de la production des énergies intermittentes. Et ce qu'on avait trouvé comme première approximation en 2016 n'a fait que se confirmer dans les calculs qu'on a fait par la suite, hein, pour les comptes rendus de chimie, et récemment que j'ai refait, parce que une fois qu'on a les fichiers, c'est quand même assez rapide, pour les scénarios RTE, N03 qui est à 640 et N03+ qui est à 750, et puis les scénarios M23 et M0 qui sont sans nucléaire, bon, pour mémoire. Donc c'est une référence, je crois qu'il est bon d'avoir en tête, parce qu'elle est simple, en gros, un quart de la production des énergies renouvelables intermittentes doivent être transférées dans le temps. Et ce qui, du coup, en prenant les options qu'on avait pour le stockage dans nos articles, ben vous voyez ici maintenant les résultats où se situe N03 qui vient donc entre 2019 et 50%, N03+, juste après, et puis voilà. Voilà. Donc, là, il va falloir que j'accélère un petit peu pour parler, mais c'est pas grave, parce que je dirais que c'est plus les sujets de prospective d'avenir, donc, et moins de... Voilà. Parler, effectivement, le bouquet électrique, on en a fait une partie. On a fait une partie du bouquet énergétique et idéalement, ce qu'il faudrait, c'est continuer pour le bouquet énergétique. Alors, le bouquet énergétique, ça, c'est les flux qu'on voit souvent. Alors, on en voit pas mal publiés en France, hein, on a les mêmes. J'ai pris celui-ci, qui est à Lawrence Livermore Laboratory. C'est pour ça que vous avez ce qui est, au point de vue de la consommation US. Pourquoi ? Parce que c'est le seul que j'ai trouvé qui non seulement indique les pertes en gris du secteur électrique qui se trouve ici, donc peut-être deux mots pour vous dire, hein, au cas où, pour expliquer. En gros, vous avez ici toutes les sources primaires, celles en haut qui vont uniquement vers la production d'électricité, celles qui sont avec les fossiles mixtes, principalement le gaz, voilà, qui vont pour l'électricité et qui vont aux consommations finales directement. Et ici, vous avez les différents secteurs de consommation classiques, habitat, résidentiel, industrie, etc. Transport, bien évidemment, en bas, avec le pétrole, voilà. Alors, oui, donc ce graphique, je l'ai pris parce qu'il a l'avantage de montrer non seulement les pertes au niveau du réseau électrique, mais aussi au niveau des consommation finale, parce que le rendement de Carnot qui s'applique sur une centrale thermique, il s'applique aussi bien sur un moteur. Donc là, il y a des pertes. Et si on veut évaluer l'efficacité d'un système énergétique, il faut regarder globalement l'ensemble. Alors la bonne nouvelle, si on veut pousser plutôt le bouquet électrique, on voit que le rendement du bouquet électrique, dans ce cas-là, il est de 41%. Et quand on fait le même calcul, j'ai été feignant, j'ai pas pris chacun, j'ai pris le total à la fin, pour le bouquet énergétique complet, on est plus bas, 34%. Donc ça veut dire qu'a priori, au point de vue rendement, c'est mieux l'électricité, dans le cas des États-Unis, en France aussi. Parce qu'il se trouve que sur ce site-là, on a pas mal de pays, et on trouve deux valeurs pour la France, la dernière, 2017. Avec les valeurs donc d'énergie, on vous retrouvez toutes les sources. Voilà. La bifurcation que j'ai mis en rouge pour dire, bah oui, Voilà, il y a une partie qui va au réseau électrique et puis l'autre qui va directement en consommation finale. Et à nouveau, si on fait le bilan du rendement, ben, le bouquet électrique, il est là de 35%. Un peu plus bas parce que le gaz, on sait, c'est des rendements thermiques meilleurs. Hein. Donc il y avait beaucoup de gaz fossiles aux États-Unis, donc mais un meilleur rendement. Et puis le rendement du bouquet énergétique, à nouveau, il est plus bas, il est à 30%. Alors justement, bon, cet avantage du rendement du bouquet électrique américain, il est quand même largement compensé par le fait que ben, les États-Unis sont encore à 384 grammes de CO2 par kilowattheure produit d'électricité. Et puis la France, elle est à, même plus bas maintenant. Hein. Et là, dans ce graphique, elle était, 2024, elle était à 44 grammes de CO2. Donc parmi... on ne le répète jamais assez, donc il faut le répéter, parmi les taux au niveau mondial les plus faibles. Alors, après, l'étape suivante, je dirais, c'est de faire le lien avec une école d'économie qui a compris l'importance de l'énergie, ce qui s'appelle Biophysical Economics. Alors, vous avez ici ce qu'on trouve sur leur site, hein, au point de vue déclaration d'intention, et ce que j'ai remis ici, en gros, c'est des économistes qui considèrent qu'effectivement l'énergie est première dans le fonctionnement des sociétés et qu'elle doit être remise au premier niveau, et donc qui s'y emploient. Donc c'est a priori des gens avec qui on devrait pouvoir travailler... approcher, disons, des travaux intéressants. Dans cette, alors, le taux d'énergie, là, il est en ordonnée. La moyenne mondiale, elle est ici. Vous voyez les différents pays, les cercles étant proportionnels à leur population. Vous voyez, en gros, la Chine est juste au niveau de la moyenne mondiale. Et vous voyez là, quand même, les pays plus anciennement développés, voilà, les États-Unis. Et comme en abscisse, c'est le PIB par habitant, vous voyez qu'il y a quand même une certaine corrélation entre le PIB par habitant et la consommation d'énergie. Plus les pays sont riches en PIB, plus ils consomment de l'énergie. Alors cela dit, on peut regarder les choses un peu autrement, toujours, alors c'est... en gros, ce même site de Biophysical Economics, je crois, on peut regarder un autre index que le PIB. C'est l'index de développement humain. Alors, ne me demandez pas dans le détail comment c'est fait, je serais bien capable de vous le dire, mais c'est intéressant de voir que c'est une autre réflexion. Et ici, vous avez donc en abscisse toujours la quantité d'énergie par habitant, consommée par habitant. Alors, donc, à nouveau, ici, elle est devenue verticale, maintenant, la consommation mondiale moyenne. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une corrélation forte entre la consommation d'énergie et l'index de développement humain, qui est au top, au niveau 1, dans la première partie. Et puis après, il semble qu'il y a un plateau, disons, qui s'établit, où on se demande si ça vaut la peine de doubler la consommation d'énergie. Voilà, parce que, alors, il y a des contraintes spécifiques aux différents pays, voilà, USA, il y a des grandes distances à faire, des choses comme ça. Bon. Mais là, on peut se dire, c'est toute une zone où, effectivement, la réduction d'énergie peut se faire sans peut-être trop d'impact sur le développement. Voilà. Alors, une autre chose qui est intéressante, qui nous ramène à l'IROI, vu précédemment, c'est ce graphique qui est une sorte de pyramide de Maslow. Alors, elle est posée sur la pointe, là, simplement parce qu'elle montre le développement des fonctions d'une société, depuis les cueilleurs-chasseurs, jusqu'à l'agriculture, etc., et jusqu'aux sociétés modernes, en fonction d'un IROI croissant. disons, je donne ça comme élément de réflexion, voilà, pour effectivement, plutôt en termes d'invitation à travailler à ces questions. Et pour terminer, donc, un économiste français, Vincent Cour, qui a publié ces résultats-là. Pareil, il fait partie, vous voyez, il a publié dans une revue d'économie biophysique. Bon, c'est pour les pays européens, alors sur des index plutôt économiques, hein, il en déduit des valeurs d'IROI dont on voit que, bon, il se stabilise autour de 5-6. Voilà. Mais c'est l'IROI sociétal, c'est-à-dire que, comme le reste de la société ne produit rien, il met dépenses. Donc on peut penser que l'IROI sociétal, il est forcément plus bas que l'IROI du système énergétique et à fortiori électrique. Voilà, pour conclure, je dirais que, bah, il nous semble, hein, avec mes trois co-auteurs, que le taux de retour énergétique, c'est une méthode qui a un fort potentiel, qui est puissante pour anticiper, au moins qui est à prendre en compte, pour anticiper la performance du système électrique ou énergétique qu'on projette pour l'avenir. Que pour cela, il faut effectivement, et c'est pour ça que Charles Hall avait fait cette lettre qui nous a servi pour le Corrigendum, garder une rigueur et une clarté dans les définitions et dans la manière dont on procède, à la fois pour les filières et pour le bouquet complet. Ce qu'on a fait, notre contribution, bah, ça a été de faire pour la première fois pour la France et pour un pays. Alors, il y a eu un précédent qu'un reviewer, un relecteur, comme quoi ça sert aussi, un relecteur, c'est intéressant, nous a fait connaître, c'est que des collègues en Belgique avaient fait ce genre de calcul pour la Belgique. Mais comme la Belgique, c'est quand même une situation un peu différente de la France au point de vue taille et voisins justement peuplés comme la France, l'Allemagne qui les entoure et qui peuvent approvisionner leur réseau, la problématique était un peu différente. Mais voilà, ils ont avant que. Alors, à part cette publication pour la Belgique qu'on nous a fait connaître, on n'a vu nulle part, je dirais, une publication de ce type où on est allé jusqu'à estimer. L'IROI d'un bouquet électrique, voilà, doté des moyens de gestion des flux intermittents. Le résultat, ben, vous avez vu que c'est les valeurs d'IROI des bouquets électriques baissent avec une part croissante d'énergie fatale. Voilà, et se rappelant que quand même les évaluations qu'on fait sont optimistes parce qu'on a omis les dépenses énergétiques qu'il faut mettre dans les installations de stockage. Et de réseau, d'extension du réseau aussi. Ça nous semble être donc une étape vers un calcul de l'IROI du bouquet énergétique complet et de là, effectivement, adresser la question qui se terminait au niveau de l'exposé, c'est le bouclage avec les évaluations d'économistes qui sont préoccupés par les questions d'énergie en fait de voir, voilà, en fonction des fonctions de la société, qu'est-ce qu'il faut garantir au niveau du bouquet électrique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et là, vous avez, voilà,
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.